Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. De l'eau, des chutes et même du verglas d'été. Première étape du Tour de France en mode glissade en pagaille hier autour de Nice. Un programme costaud encore aujourd'hui. On y revient au tout début de ce journal. De la route du Tour à celle des vacances. Journée orange dans le sens des retours. Masque obligatoire sur les aires d'autoroute. Dur retour à la réalité pour certains, vous l'entendrez. Et puis aussi la grève à la SNCF mi-septembre. Bruno Le Maire ne comprend pas. Manifestation monstre à Jérusalem en Israël hier devant la résidence du Premier ministre. Et puis le sport. De la voile, départ de la solitaire du Figaro ce midi 13h. Et du foot, les filles sont dans la place finale de la Ligue des Champions pour l'OL. On en parle dans le journal des sports à suivre.
Et dans 20 minutes, question sur l'école de masse et son idéal méritocratique. Rendez-vous donc à 8h20. Notre invité sera le sociologue François Dubé pour son dernier livre coécrit. L'école peut-elle sauver la démocratie? On attend vos questions aussi à François Dubé. C'est au 01 45 24 7000.
France Inter. Des routes comme des toboggans, de l'eau, des chutes après la peur de la crise sanitaire. Voici le chaos donc de la météo. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Nice, première étape du Tour de France hier avec donc ces chutes en pagaille, ses favoris au tapis. La course a rapidement repris ses droits, on dirait.
Oui, à force de parler bulles et masques, on en avait presque oublié l'essentiel, la course et ses rebondissements, tout ce pourquoi on aime le Tour depuis plusieurs jours. Les prévisionnistes nous l'avaient dit, après deux mois de sec, la pluie allait enfin tomber à Nice, mais tellement accaparée par nos écouvillons, nous n'avions pas envisagé la pagaille qu'elle pouvait semer dans un peloton. La réalité nous a vite rattrapés, des coureurs au tapis par dizaines, l'étape transformée en jeu de quilles, le verglas d'été, c'est le nom de ce phénomène, quand l'eau se mélange à l'huile, au carburant accumulé depuis des semaines, le vélo devient incontrôlable. À 45 km de l'arrivée, le coureur colombien Miguel Angel Lopez va tout droit dans un virage. Il heurte violemment un panneau avec sa tête heureusement casquée. C'en est trop. Le peloton décide d'arrêter les frais, de ralentir l'allure. À 3 km de l'arrivée, les coureurs se relèvent. Nouveau coup de frein. Le franc-comtois Thibaut Pinot est pris dans cette ultime chute. Épaule et genoux touchés, mais pas de temps perdu. Le Belge Philippe Gilbert a eu moins de chance. Fracture de la rotule. Son tour est terminé, a annoncé son équipe cette nuit. Et la Covid n'y est pour rien.
Et en attendant, eh bien c'est le Norvégien Alexander Kristoff de l'équipe Emirates qui finit en jaune. Alors aujourd'hui, on entre dans le dur, Jérôme. Deux cols de première catégorie, rarement si aussitôt, dit Christian Prudhomme. Ce n'est pas un tour de la Côte d'Azur, mais des Côtes d'Azur.
Oui, la haute montagne, dès le deuxième jour, 4000 mètres de dénivelé positif à travers les Alpes-Maritimes. En remontant vers l'Italie, quatre cols dont deux classés première catégorie, dont le Turini, sa descente en lacet serré, cher au rallye automobile Monte Carlo. Si les favoris de ce tour veulent s'expliquer, le cadre est idéal. Ce matin, une seule bonne nouvelle pour les coureurs et leurs corps endoloris, le ciel au-dessus de Nice, dégagé, il ne devrait pas pleuvoir.
Eh bien, on suivra ça avec vous, Jérôme Cadet, sur la route du Tour en direct de Nice. Départ de cette deuxième étape, donc à 13h tout à l'heure.
Et hier, on a entendu parler de Côte d'Azur. L'actualité, Hélène, c'est aussi le virus qui continue de galoper un peu partout dans le monde.
78 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Record mondial, ça se passe en Inde. Et puis au total, selon les derniers chiffres, 25 millions de cas déclarés sur la planète. 5 000 en France hier. Contexte inédit donc pour la rentrée scolaire qui se profile. 12 millions d'élèves reprennent le chemin des classes. Après-demain mardi, avec des enseignants masqués toute la journée. Idem pour les collégiens ou les lycéens. Pas question en revanche d'imposer le masque aux plus petits, comme le réclame un collectif de médecins. Jean-Michel Blanquer, ce matin, dans le journal du dimanche, est catégorique et affirme suivre les conseils des pédiatres. Le ministre de l'Éducation n'exclut pas par ailleurs que des écoles ou même des classes restent fermées. Ce sera du cas par cas, dit-il. On peut aussi imaginer un protocole plus strict dans les écoles dans les mois qui viennent. Le ministre qui détaille par ailleurs son Grenelle des professeurs, axé début octobre sur les hausses des salaires et les 400 millions d'euros supplémentaires promis. Avant la rentrée, il faut déjà prendre la route du retour. Journée orange, ils sont encore nombreux ceux qui profitent des vacances jusqu'au dernier moment. Résultat, beaucoup de monde sur les aires d'autoroute et brutal retour à la réalité pour certains. Les gendarmes ont mené des opérations de contrôle hier. Contrôle du port du masque. Reportage à Saint-Laurent-sur-Manoir dans le Périgord, signé Emmanuel Claverie.
Monsieur, couvrez-vous bien le nez, s'il vous plaît. François, 81 ans, vient de se faire rattraper par la patrouille.
La gendarmerie vient de me solliciter gentiment. Hein. Alors on a un service d'ordre vraiment exemplaire. C'est pas la violence de Paris ici. Ils sont calmes, gentils. C'est parfait, quoi. C'est très bien.
Mais ce vacancier qui rentre chez lui à Clermont-Ferrand avait une bonne raison de ne pas avoir de masque sur le nez.
Bah, j'avais pas mon masque. Je vais vous dire pourquoi. J'avais baissé mon masque parce que je voulais réussir à mettre le liquide dans ma bouche. Et malheureusement, avec le masque, c'est pas possible. Donc je l'ai tiré légèrement vers le bas, voilà.
Aux caisses de la station, comme dans la file d'attente devant les toilettes, les contrevenants sont rares, se félicite le lieutenant Frédéric Rémy, nouveau commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière.
Principalement, on a affaire à des gens qui, dans la majeure partie des cas, portent le masque sans problème. Après, il y a aussi des gens qui ont obligé de réajuster le port du masque, c'est-à-dire qui ne prennent pas en compte leur nez. Donc forcément, on fait rehausser et puis ça se passe très bien. Voilà, c'est simplement un réajustement verbal.
Plusieurs personnes sont malgré tout rentrées de vacances avec un souvenir du Périgord dont elles se seraient bien passées. Une amende de 135 euros.
Conséquence du confinement, le plan de relance présenté mardi, jour de rentrée par le patron de Bercy. Bruno Le Maire détaillera le plan à 100 milliards d'euros en Conseil des ministres avec, on le sait déjà, 5 milliards pour le train. Alors quand la CGT annonce une grève pour mi-septembre, Bruno Le Maire, le ministre, a du mal à digérer. Il était sur notre antenne hier.
À quoi sert cette grève à la SNCF? Qu'est-ce que ça va améliorer pour les cheminots alors même que le gouvernement, aujourd'hui, reprend la dette de la SNCF à hauteur de 35 milliards d'euros et décide d'investir massivement pour le transport ferroviaire.
La CGT Cheminots, qui a donc lancé un préavis de grève pour la journée du 17 septembre, persiste. Explication avec Laurent Brun, son secrétaire général.
On nous annonce un plan de relance du fret ferroviaire et dans le même temps qu'on nous annonce ça, on nous annonce aussi une nouvelle vague de suppression d'emplois. Officiellement, à la SNCF, cette année, le budget prévoyait 1000 suppressions d'emplois, mais comme un certain nombre de recrutements n'ont pas été faits pendant la période du confinement et que les départs, eux, se sont poursuivis, on va probablement aller plutôt vers les 3000 suppressions d'emplois. On est dans l'enfumage de la part du gouvernement et la réalité, c'est que la casse sociale se poursuit.
Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT, avec Delphine Simon.
Il est 8h07, alors qu'il était suivi par la justice, un multirécidiviste a violé et tué une adolescente de 15 ans, c'était le 20 août dernier.
Cet homme de 45 ans, condamné en 2005 pour une douzaine de viols, a été mis en examen hier après avoir avoué ce meurtre à Nantes, en plein centre-ville. Une récidive que la justice n'a pas su voir venir, reconnaît Yvon Olivier, le procureur de la République adjoint.
On a affaire à l'individu qui a déjà été condamné en 2005 à une lourde peine, 18 ans, pour des faits de viol. Il a également été condamné à une peine de 10 ans de suivi socio-judiciaire. Il a été libéré en février 2016 et toutes les obligations étaient respectées, l'injonction de soins était respectée. Il voyait une fois tous les deux mois un psychothérapeute et dans ce dossier, on a affaire à quelqu'un qui offre une figure tout à fait lisse de quelqu'un qui respecte toutes les obligations mises à sa charge. Il avait même trouvé une compagne, donc on a pu penser à une forme de stabilisation de l'intéressé. Et en fait, on est dans une situation nous avons un suivi socio-judiciaire qui est intégralement respecté. Et pour autant, ça n'a pas suffi à prévenir la récidive légale. Il n'y avait pas le moindre élément qui puisse penser à une forme de fragilisation de l'intéressé qui aurait pu le conduire à passer à l'acte.
Le procureur de la République adjoint de Nantes avec Florian Cazola, France Bleu, Loire-Océan. La politique avec les universités d'été, celle du PS ce week-end à Blois. Le patron Olivier Faure plaide toujours pour le rassemblement avec les écologistes pour 2022. Pas d'accord du tout. François Hollande, dans les colonnes de Ouest-France, qui met les pieds dans le plat, refuse les ralliements. Le PS, dit-il, doit rester la grande force centrale. À l'étranger, cette image, celle de ces 20 000 manifestants devant la résidence officielle du Premier ministre en Israël, sans doute la mobilisation la plus importante depuis le début du mouvement il y a 10 semaines, alors que le pays souffre d'une deuxième vague épidémique, qu'il y a la crise économique et sociale inédite, et bien c'est une convergence des luttes, Frédéric Mettezo, dirigée contre celui qu'on surnomme Bibi.
Bibi à la maison, bye bye Bibi. Contre le Premier ministre jugé pour corruption, les slogans sont aussi divers que les drapeaux. Le drapeau noir des militants anticorruption, rouge des défenseurs des droits sociaux, bleu et blanc d'Israël. Moshe.
J'étais dans le Shin Bet, les services secrets intérieurs. J'ai 3 enfants qui sont tous allés à l'armée. C'est pas une question de gauche ou de droite. Il s'agit juste de ne pas devenir une république bananière.
Ici, on dénonce les violences policières de la semaine dernière. Là, l'occupation de la Cisjordanie. Laïcs et religieux ne supportent plus la gestion du coronavirus. Yanaï se découvre une âme de manifestant.
Non, je suis pas du tout militant politique. En général, justement, je reste chez moi à cette heure-ci de la semaine. On vient de passer maintenant une année avec trois tours d'élection. Maintenant, Benjamin Netanyahu doit faire face à son jugement. Tout s'accumule. C'est une personne qui ne connaît pas de limite pour préserver son pouvoir. Ça me fait peur.
Keshet, 22 ans, vient depuis un mois et demi.
Je suis sûre que Benjamin Netanyahu ne démissionnera pas, mais je pense vraiment qu'une bonne partie de la société va changer d'opinion, en bien.
Le Conseil des ministres prévu dans la matinée a encore été annulé pour la troisième semaine consécutive. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
À l'étranger, en bref, encore l'opposition en Biélorussie, menacée par la répression et une éventuelle intervention russe, appelle à une nouvelle manifestation pacifique aujourd'hui contre le régime. Enfin, avant d'attaquer notre page sport consacrée au foot ce matin, quelques mots de tennis. D'abord, demain, début de l'US Open, et plus que jamais favori, le Serbe Djokovic qui a remporté hier le Masters 1000 de Cincinnati. Djoko, la machine, personne n'a encore réussi à battre le numéro 1 mondial cette année. Et puis de la voile, départ à 13h de la prestigieuse solitaire du Figaro à Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d'Armor. Armel Lecléache, grand favori, arrivé de la solitaire le 18 septembre à Saint-Nazaire.